Pierre-Étienne Joie.
Le Val de Bagne, une lave torrentielle a détruit le pont d'accès au village de Lourtier en Valais, la localité inaccessible en voiture. Seul un chemin pédestre permet de rejoindre le fond de la vallée en cas d'urgence. Il s'agit d'un pont fusible, c'est-à-dire qu'il avait justement été conçu pour céder en cas d'événement majeur afin d'éviter des dégâts plus graves. La lave torrentielle a néanmoins surpris par sa puissance. Et à Blatten, les recherches ont repris pour retrouver l'homme disparu. Des personnes et des engins s'activent sur place. L'appel mécanique est également engagé. Une observation permanente est assurée par les pompiers ainsi que par l'armée. Une dizaine de morts dans un bombardement israélien à Gaza. La défense civile annonce le décès de 14 personnes dans un bombardement israélien à une habitation de Jabalia, la ville dans le nord du territoire palestinien. Il y a 6 enfants et 3 femmes parmi les victimes. Une immense colonne de cendres, de gaz et de roches s'est échappée ce lundi du mont Etna en Sicile. C'est le plus grand volcan actif d'Europe. Une partie de son cratère s'est probablement effondrée. L'activité du volcan a évolué en fontaine de lave. Une alerte rouge a été émise. Microsoft investit 400 millions de dollars, soit 326 millions de francs suisses, dans les domaines du cloud et de l'intelligence artificielle en Suisse. Les centres de données existants dans les régions de Genève et de Zurich, entre autres, seront développés dans ce cadre. L'entreprise souhaite ainsi répondre à la demande croissante de services du cloud et de l'intelligence artificielle. Le futur gymnase du Chablais à Aigle, dans le canton de Vaud, a franchi une étape symbolique avec la pose de la première pierre. L'établissement qui pourra accueillir 1100 élèves, il ouvrira pour la rentrée d'août 2027. Florian Villette, le promoteur de la capsule de suicide assisté Sarko et président de The Last Resort, est décédé. Une annonce faite sur le site internet de l'organisation suisse d'aide au suicide, selon le Tages Anzeiger. L'avocat de 47 ans aurait mis fin à ses jours suite à la première utilisation en Suisse de Sarko en septembre dernier. Il avait été placé en détention provisoire, puis libéré. La météo... Des nuages encore ce soir et puis aussi de la pluie. Demain, même type de temps et ce sera la même chose pour la fin de la semaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Psst. J'ai un secret à vous dire, mais ça reste entre nous. Si vous aimez rire avec le Couleur 3 Comedy Club ou si vous aimez l'humour tout simplement. Si vous voulez partir à l'aventure avec Yuku et la Fleur de l'Himalaya ou d'autres programmes jeunesse. Si vous savourez la course aux étoiles ou si vous voulez voyager avec des documentaires passionnants, j'ai la solution. Entre nous, c'est Play RTS. Vos contenus préférés, sans abonnement. Téléchargez l'application dès maintenant.
L'oreille d'abord, Catherine Buzer.
Et en face de moi, la régie, José Moreno. Bonjour, bienvenue.
J'aimerais que tu puisses entendre la musique de Dvorak. Elle est tout simplement ravissante, si mélodique et si intelligemment composée. Quant à l'orchestration, elle est pleine de surprises. Peu importe le nombre d'instruments engagés, ça ne sonne jamais creux. Je ne peux pas la décrire, il faut que tu l'entendes. C'est en ces termes qu'Edouard Elgar décrit la 7e symphonie d'Antonin Dvorak, au lendemain de sa création londonienne, le 22 avril 1885. Elgar était assis dans les toutis des premiers violons, et on peut bien s'en douter, il fut particulièrement impressionné par l'œuvre qu'il exécuta ce soir-là. La 7e symphonie est devenue au fil du temps l'une des œuvres les plus populaires de Dvorak, presque aussi populaire que la fameuse symphonie du Nouveau Monde. Elle s'affirme incontestablement comme l'une des symphonies les plus mûres, mais aussi les plus profondes de l'auteur. Je propose aujourd'hui d'ouvrir la partition de cette symphonie et d'en décrypter quelques-unes des subtilités. Et voici pour nous mettre en oreille le scherzo de la symphonie, un vivace en forme de furion.
Thank you.
Le scherzo, la 7e symphonie d'Antonín Dvořák, Jerzy Białohlávek dirigeait l'Orchestre philharmonique de Prague. Ce troisième mouvement a largement contribué au succès de cette symphonie, sans doute en raison de sa couleur résolument folklorique. Le compositeur adopte ici la forme d'un furian. Un furian, c'est une danse tchèque particulièrement exubérante. Avec ses rythmes endiablés et son caractère enjoué, ce mouvement évoque une scène de rue animée par des fêtards impromptus. Un groupe se reposant et fatigué, un autre dansant avec fureur et énergie jusqu'à la fin. Mais avant d'entrer plus en détail dans les secrets d'écriture de cette 7e symphonie, un petit rappel des circonstances qui ont présidé à sa naissance. Dvořák a composé cette symphonie entre décembre 1884 et mars 1885. Il lui a fallu 4 mois pour la mener à bien. L'œuvre est née dans une période traversée de doutes. On sait que son écriture a demandé au compositeur beaucoup d'efforts. L'œuvre le hantait. Dans une lettre à son ami Antonín Rus, Dvořák écrit « Je suis actuellement occupé par ma nouvelle symphonie et où que j'aille, je ne pense à rien d'autre qu'à cette nouvelle symphonie qui doit être capable d'émouvoir le monde. Que Dieu fasse qu'elle le fasse. » Si Dvořák est aussi soucieux de réussir cette nouvelle œuvre, c'est parce qu'il commence tout juste à avoir du succès. Un succès qui s'est longtemps fait attendre. Les allées de galère semblent enfin derrière lui. Le succès est pourtant encore fragile et tout peut basculer facilement. Pour l'heure, ses compositions, en particulier ses danses slaves et son Stabat Mater, ont braqué les projecteurs sur sa musique. Dès lors, Dvořák est invité un peu partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie. Il le sera bientôt en Russie et aux États-Unis. Et qui plus est, Vienne, la ville de Mozart et de Schubert, où vit son ami Brahms, réclame son installation dans ses murs. Dvořák peut-il raisonnablement envisager de refuser une telle opportunité? Il sait que dans une ville aussi provinciale que Prague, l'avenir pour un musicien, aussi doué soit-il, est incertain. Pourtant, il est assailli par le doute. Il craint que le succès qu'il doit au soutien inconditionnel de son ami Brahms et de son éditeur Simrock ne s'estompe bientôt. Il hésite à quitter sa terre natale. Enfant de la campagne, il se méfie de la grande ville. Et surtout, il n'oublie pas que l'allemand, appris sur le tard et non sans difficulté, reste la langue imposée à son peuple. Lide, ou Le silence de la forêt, c'est une pièce pour violoncelle et orchestre d'Antonín Dvorak. Daniel Müller-Schott en était le soliste, accompagné par l'orchestre de la radio de Hambourg, direction Michael Sanderling. C'est donc dans un contexte d'interrogation existentielle que Dvorak reçoit la commande d'une nouvelle symphonie. Elle émane de la Société Philharmonique de Londres. Nous sommes en juin 1884. Le compositeur s'était fait connaître du public anglais au cours de l'année précédente. Il avait été invité à diriger son Stabat Mater pour soli, chœur et orchestre au Royal Albert Hall de Londres. L'œuvre avait fait sensation et impressionné le public par sa puissance émotionnelle. La Société Philharmonique avait mis à la disposition du compositeur un effectif très impressionnant. Près de 800 choristes avaient pris part à l'exécution de l'œuvre. Cette performance avait valu à Dvorak un immense succès et contribué de manière significative à la reconnaissance du reste de son œuvre en Angleterre. Dès lors, la capitale britannique se prend d'affection pour Dvorak, ce compositeur si exotique venu de Bohême. Je propose ici d'écouter un mouvement de son fameux Stabat Mater, le Eia Mater Fons Amoris, pour soli, chœur et orchestre, qui a assuré son succès en Angleterre.
Thank you.
Eia Mater von Samoris, c'est un extrait du Stabat Mater pour soli, chœur et orchestre d'Antonin Dvorak. Philippe Herrevec dirigeait le Collegium Vocal et Gand et l'Orchestre Philharmonique Royal d'Anvers. C'est donc au lendemain d'une exécution du Stabat Mater au Royal Albert Hall de Londres que Dvorak s'attire les faveurs de la Société Philharmonique de la ville qui aussitôt l'invite à revenir l'année suivante. Et pour mieux le convaincre, elle le nomme membre honoraire de la Société et lui passe commande d'une symphonie. Ce sera la 7e. L'invitation de la Société Philharmonique de Londres arrive à un moment très propice dans la carrière de notre compositeur. Ce dernier vient de découvrir la 3e symphonie de Johannes Brahms, pour lequel il a une immense admiration et sans l'aide duquel il n'aurait peut-être jamais connu le succès qui est alors le sien. Dvorak voit donc dans cette commande londonienne une occasion rêvée de se mesurer à son ami sur un terrain autrement plus ambitieux que celui des danses slaves. Mais il craint de ne pas réussir à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Et il redouble d'efforts pour mener à bien son œuvre. Il écrit à son éditeur Simrock : « Cette œuvre m'occupe depuis très très longtemps. Il faut qu'elle soit convenable, car je ne veux pas décevoir Brahms, d'autant plus qu'il m'avait dit, à propos de celle en ré majeur, ma 6e symphonie, qu'il se l'était imaginé tout à fait différemment. » Dvorak redouble donc d'efforts pour écrire cette nouvelle symphonie. Et il lui faudra même s'y reprendre à 4 reprises pour composer l'introduction. Il ouvre sa symphonie par un mouvement indiqué Allegro Maestoso. Le premier thème de ce premier mouvement est particulièrement saisissant. Dvorak aurait été inspiré par la vision d'un train nationaliste anti-habsbourgeois débarquant dans la gare de Prague. Il émerge comme d'un brouillard et finit par s'exprimer comme pour annoncer l'arrivée de Dvorak et de son peuple sur la scène internationale. Vous noterez au passage l'utilisation d'une mélodie empruntée à l'ouverture Husitska, écrite pour l'ouverture du Théâtre National de Prague en 1883. Clin d'œil affirmé et volontaire à une œuvre patriotique et épique dans la lignée de Mavlast de Smetana, animée d'une puissance farouche qui exprime la lutte du peuple tchèque pour ses valeurs.
Thank you.
Le premier mouvement, Allegro Maestoso, de la 7e symphonie d'Antonín Dvořák. Jerzy Bielorlavek dirigeait l'Orchestre philharmonique de Prague. Si l'on en croit John Clapham, biographe du compositeur, la 7e symphonie se distingue de la précédente par sa puissance dramatique, un sentiment émotionnel plus profond et une largeur de vue inégalée. Le folklore, omniprésent dans la 6e comme dans les danses slaves, est toujours bien présent, mais il semble passer ici au second plan, au profit d'une architecture beaucoup plus élaborée. La symphonie surprend par son caractère contrasté, son atmosphère dramatique, ses couleurs et une harmonie résolument modale, autant d'éléments qui lui donnent un charme irrésistible. C'est sans doute l'une des œuvres les plus personnelles de Dvořák, tout en s'inscrivant dans la veine patriotique tchèque naissante. À ce propos, elle a valu au compositeur de se brouiller avec son éditeur Simrock pour avoir tenu à ce que les titres soient publiés à la fois en tchèque et en allemand. Je vous propose maintenant d'entrer dans le second mouvement de cette symphonie. C'est un mouvement poco adagio que l'on peut sans doute considérer comme une des pages maîtresses de toute l'œuvre symphonique de Dvořák. Il se distingue par l'élévation de son inspiration, la richesse et l'abondance de ses idées. C'est un véritable chant de douleur avec des mélodies d'une beauté ineffable, jamais exempte de menaces sourdes. L'angoisse reste constante à l'image de cette marche étrange à la fois héroïque et funèbre qui s'achève dans la plainte des vents.
Thank you.
Le mouvement lent Poco Adagio de la 7e symphonie d'Antonín Dvorak, symphonie en ré mineur, ici interprété par Jiří Bělohlávek à la tête de l'Orchestre Philharmonique Tchèque. Aussi personnelle soit-elle, cette 7e symphonie trahit pourtant quelques influences, notamment celles de Johannes Brahms et de Richard Wagner. L'image de Brahms surgit notamment dans le lyrisme tout germanique de ce 2e mouvement et la carrure vigoureuse des tutti. En effet, Dvorak rend un vibrant hommage à son mentor et ami Brahms. Il reprend dans ce 2e mouvement de sa symphonie un des thèmes tirés du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Johannes Brahms, notamment cette fameuse mélodie que Brahms fait entendre dans l'Andante et que Dvorak cite à la clarinette.